Le dimanche de Pâques, nous avons affirmé, prêché, proclamé que le Christ était ressuscité. Bon, je suis très content pour lui en particulier. La question d'après Pâques, pour moi, c'est de savoir comment le Christ ressuscité peut-il apparaître ? Comment peut-il continuer à être présent ? C'est-à-dire que c'est bien beau de dire que Christ est ressuscité, mais on l'a dit de toutes les manières, avec des chants, des hymnes, des proclamations, des cris de joie, des alléluia et d'autres choses. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il après ? Après, Jésus apparaît aux disciples, on le voit dans les récits, mais est-ce qu'il m'apparaît à moi ? Est-ce que cet événement est un événement terminé d'il y a 2000 ans, ou est-ce que encore aujourd'hui le Christ peut m'apparaître ? C'est la question que j'ai voulu me poser aujourd'hui. Et donc la question que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est celle de, je dirais, de l'after-Pâques. C'est-à-dire après Pâques, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors pour ça, selon ma bonne méthode réformée, je me suis dit, je vais lire tous les récits d'apparition du Christ dans les évangiles. Il y a le début de la résurrection et après Jésus apparaît aux disciples un peu partout dans les évangiles. Et donc je me suis dit, je vais lire tous ces récits et je vais essayer de comprendre de quelle manière Jésus peut en effet nous apparaître. Parce qu'en effet, je crois que cette méthode que je veux faire, c'est celle que j'applique à toute la Bible, où en effet, je pense que par rapport aux textes bibliques en général et ceux de la résurrection en particulier, nous ne sommes pas invités à rester spectateurs des événements, mais nous devons prendre part à ce qui se passe. Et c'est vrai aussi pour les apparitions. Ces récits d'apparition ne sont pas des récits d'expériences passées de gens qui auraient eu la chance de voir apparaître Jésus. Ces récits ne m'intéressent que si je peux m'identifier à ces personnes et si je peux dire, en fait, cette histoire, ce peut être la mienne. Parce que je crois que l'Évangile n'est pas comme la légende dorée. Vous savez, la légende dorée, c'était ces récits de tous les saints admirables du Moyen-Âge. Parce que l'on pensait à ce moment-là que de contempler des vies admirables pourrait nous rendre meilleurs. Personnellement, je ne le pense pas. Parce que peut-être que j'ai plus tendance à aimer être acteur que spectateur. Et en général, j'aime bien quand je peux vivre les événements. C'est très gentil si vous me racontez que vous avez fait un repas formidable avec des très grands vins. Je serais heureux pour vous, mais moi, ça ne me nourrit pas. Je dirais, regarder des gens manger ne me nourrit pas. Et que quelqu'un me dise sur Facebook qu'il a bu tel et tel grand cru, je suis très content pour lui, mais moi, mes papilles gustatives ne sont absolument pas réjouies par la joie des autres. Et de même que regarder le sport à la télévision vous fera pas maigrir, hein, ou peut-être même au contraire. Et donc, de la même manière, s'émerveiller que Jésus ait pu apparaître à un tel ou à un tel il y a 2000 ans, qu'est-ce que ça me fait pour moi ? Eh bien, c'est la question que j'essaye de comprendre, en fait. C'est pour ça que je veux savoir, quand je lis ces textes, c'est en quoi est-ce que c'est mon histoire qu'elle a dedans ? Et la plupart des commentateurs bibliques essayent de s'intéresser à ce qui s'est passé et se demander si vraiment Jésus a vraiment mangé des poissons et du miel avec les disciples dans la chambre haute. Question sans aucun intérêt pour moi. De savoir si Jésus est allé avec les pèlerins d'Emmaüs, est-ce que Emmaüs était à l'est ou à l'ouest de Jérusalem ? Les théologiens se disputent là-dessus, il y a deux Emmaüs, on ne sait pas lequel est le bon. Aucun intérêt. Est-ce que les disciples d'Emmaüs étaient deux hommes, un homme, une femme ou deux femmes ? Aucun intérêt. Moi, la question, c'est la seule pour moi. Comment Christ ressuscité peut-il venir à moi ? Et comment le Christ ressuscité peut-il m'apparaître ? Alors donc, je vous ai dit, je vais reprendre tous les textes d'apparition dans les quatre évangiles et je vais essayer de comprendre comment ça marche et comment ce peut être des exemples types de l'expérience du Christ ressuscité dans sa vie. Et là, j'ai été surpris de plusieurs choses. La première chose qui m'a étonné dans ces récits d'apparition, c'est leur très grande diversité. En fait, ils sont très différents. Dans certains évangiles, Jésus apparaît vraiment en chair et en os, puisque même on lui fait manger du poisson et du miel. Très bonne idée de manger du miel, d'ailleurs, mais bon, poisson aussi. Dans d'autres, au contraire, il est présenté comme un passe-muraille. Il traverse les murs, il traverse les portes. Il apparaît en même temps à Jérusalem et en Galilée. Enfin bon, il disparaît miraculeusement, il réapparaît. Mais néanmoins, dans ces récits, malgré toutes ces diversités totales qui font qu'il n'y a aucun parallèle entre les récits des différents évangiles, il y a un certain nombre de constantes. Et c'est ça d'abord que j'ai voulu trouver. La première chose constante qu'il y a dans tous ces récits, c'est que Jésus, le Christ, n'apparaît qu'aux croyants. Ça, c'est assez étonnant. Par exemple, le Christ ressuscité n'apparaît pas à Pilate, ou aux soldats, ou à ceux qui l'ont crucifié. Ça aurait été bien, il aurait pu ressusciter, dire à Pilate, tu vois, pépère, quand même, hein, t'as fait une sacrée bêtise dans l'affaire. Hein. Il aurait pu confondre les mauvais judéens qu'il avait crucifié, en disant, mais attendez, vous avez vu, je ressuscite, je suis le Fils de Dieu. Non. Le Christ ressuscité n'apparaît qu'aux croyants, qu'à ses disciples. Donc voilà, première chose que je me dis pour nous, puisque mon but c'est de trouver la méthode pour découvrir, voir apparaître le Christ ressuscité. Première chose, si le Christ ne peut nous apparaître que si déjà on le connaît, que si on est un peu familier avec lui. Et donc si vous voulez que le Christ ressuscité apparaisse dans votre vie, si vous voulez qu'il prenne une place dans votre vie, eh bien première chose à faire, là c'est votre travail, apprenez à le connaître. Rendez-vous familier de lui. Rapprochez-vous de lui. Et ça, on peut le faire, même si votre foi n'est pas parfaite, parce qu'on va le voir sans arrêt, les disciples manquent de foi, enfin, ils sont pleins de défauts. Même si votre foi n'est pas parfaite, même si vous ne croyez pas tout bien, même si vous ne croyez pas trop à la résurrection ou à ce que j'en sais rien, apprenez à rapprochez-vous de la vie de Jésus. Il faut cheminer avec lui, comme l'ont fait les disciples. Cheminer avec lui, aller avec lui de la Galilée jusqu'en Judée, accompagner-le jusque dans le récit de Gethsémané, de l'agonie, et accompagner-le jusqu'à la croix. Et si vous vous rendez familier de ce Jésus dont nous parlent les évangiles, qui devient une connaissance, votre compagnon, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour qu'il puisse être présent d'une autre manière dans votre vie. Si Jésus vous est totalement étranger, ça va être compliqué. Encore que quand je dis que le Christ n'apparaît qu'aux croyants, non, c'est pas tout à fait vrai. Hein, le Christ ressuscité n'est pas une sorte de récompense qui serait faite aux champions de la foi. Ce n'est pas ça du tout. Parce que ça, c'est une autre constante dans nos récits. À chaque fois, Jésus, quand il apparaît aux disciples, il leur reproche leur manque de foi. Il commence par les engueuler, en disant « Pourquoi vous ne me croyez pas? Vous manquez de foi? Vous n'êtes pas de bons croyants? Vous manquez de tout ?» Et donc, la manque de foi que dans laquelle je me reconnais, bien souvent, n'est pas du tout un obstacle pour voir apparaître Jésus. Mais il faut quand même le connaître un peu. Il faut avoir un début de foi. Et le Christ peut apparaître, même si notre foi n'est pas au maximum, mais il apparaît pas, même si notre foi est pas parfaite, il peut quand même nous apparaître. Voilà. Et ça, c'est important parce que je crois que nous, enfin, si vous êtes là, c'est que vous connaissez un peu qui est Jésus, donc ça vous concerne pas beaucoup ce que je dis, mais on peut toujours connaître un peu mieux le Christ. Notre vie, est-ce de la foi ou de la non-foi? Entre nous, il y a un peu de foi en Jésus, mais de la foi imparfaite. Il y a aussi de la non-foi. Et je me reconnais là-dedans, dans ce verset, peut-être l'un des plus touchants de l'Évangile, quand Jésus dit au père de l'enfant malade, quand il dit à ce père, « Crois-tu ?» Et ce père répond, vous savez, ce verset magnifique, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. » Viens au secours de mon incrédulité. Et donc la foi et le manque de foi, c'est notre expérience fondamentale et ce n'est pas un obstacle à ce que le Christ vienne dans notre vie, mais il faut quand même le connaître un peu, sinon ça va être difficile. La deuxième constante dans ces récits d'apparition du Christ, c'est que souvent les disciples sont confrontés à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Souvent ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est le cas des pèlerins d'Emmaüs, ils marchent avec lui, ils savent même pas qu'il est là. Marie-Madeleine, elle croit que c'est le jardinier. Les autres, ils savent pas qui c'est. Et donc, il y a plein de fois dans ces récits où les disciples ne reconnaissent pas cette présence du Christ ressuscité qui leur est offerte. Autrement dit, cela veut dire qu'on peut faire l'expérience du Christ ressuscité même sans en avoir conscience. Et donc, peut-être que finalement, vous vous posez la question de savoir est-ce que vous avez expérimenté le Christ ressuscité. Peut-être que vous ne le savez pas, mais que oui. Voilà. Peut-être qu'en fait, vous avez plus de foi que vous ne pensez et que vous en avez peut-être fait l'expérience sans en avoir conscience. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai moi observé et que j'observe de plus en plus dans mon activité pastorale. De gens qui font une expérience spirituelle à laquelle ils ne comprennent rien. Parce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui n'ont pas eu d'éducation religieuse, pas eu de catéchisme et rien, et qui, tout à coup, ont une sorte d'expérience spontanée du divin, une sorte de foi qui leur tombe dessus, en quelque sorte, et quelque chose qui trouble leur vie. Alors ces gens se disent, mais je suis fou, en fait, il m'arrive un truc, ça va pas. Alors ils cherchent sur Internet, et comme on travaille bien, ils finissent par arriver sur le site de l'Étoile, étoile.pro. Là, il y a plein de textes, et ils disent, tiens, c'est formidable, mais en fait, il y a d'autres gens qui font la même expérience que moi, et ces gens sont pas tous dingues. Non seulement ils sont pas fous, mais ils sont apparemment très raisonnables, et puis il y a même on peut mettre des mots, il y a des discours là-dessus, c'est rationnel, c'est intelligent, c'est construit, et donc ça les rassure beaucoup de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire ce type d'expérience spirituelle, de l'expérience du divin, l'expérience du transcendant, de découvrir le Christ, la puissance de l'Évangile. Et qu'il y a même moyen en venant au culte, de l'encadrer, cette expérience spirituelle, de la rationaliser, de l'encadrer, de la rendre intelligente, de l'orienter, et aussi de l'encourager et de la revivifier, parce qu'on sait que c'est bien, mais qu'on l'a pas toujours. Et donc ça, c'est quelque chose d'important des gens qui ne comprennent pas forcément exactement ce que c'est. Et puis, il y en a d'autres, dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être, qui eux ne font pas d'expérience mystique parce qu'ils sont un peu comme Obélix, qui sont tombés dans la potion magique depuis qu'ils étaient enfants, et certains connaissent le Christ depuis toujours, donc il n'y a pas de découverte émouvante de l'Évangile ou du Christ, et c'est donc moins spectaculaire. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, je dirais qu'on peut rester avec cette espèce de connaissance un peu familière du Christ sans que ça change la vie. Mais c'est quand même une merveille si à un moment ou l'autre, ce n'est pas simplement une sorte d'enduit vaguement chrétien et une tradition familiale à peu près chrétienne qui nous accompagne, mais que tout à coup, cette présence du Christ devient quelque chose que l'on expérimente comme une force de vie, comme quelque chose qui vraiment m'apporte quelque chose, change ma vie, me soutient, m'illumine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même formidable si justement ce Christ ressuscité devient une source de vie dans sa propre existence et devient quelque chose qui est une vraie présence et pas juste une culture religieuse. Alors, c'est le mieux, c'est l'idéal. Et je vous le souhaite, mais cela dit, c'est pas indispensable. Hein. Il y a des chrétiens un peu émotifs, et même parmi ceux qui sont là ou qui nous écoutent, il y en a certains qui aiment bien l'Évangile, qui aiment bien venir au culte, chanter les cantiques, qui aiment bien discuter à la sortie du temple sur le parvis, qui aiment réfléchir sur Dieu, qui aiment la réflexion philosophique, qui aiment le Dieu moral ou autre, mais qui n'expérimente pas grand-chose d'un point de vue personnel. Écoutez, on fait ce qu'on peut, hein, c'est déjà pas mal, mais si on peut l'expérimenter d'une façon un peu plus profonde, c'est quand même mieux. Et parce que l'expérience du transcendant, l'expérience de l'absolu, l'expérience d'être saisi par quelque chose qui est au-delà du métro, boulot, dodo, au-delà de notre simple expérience quotidienne et triviale d'être humain, c'est quand même quelque chose qui élève notre âme, qui nous soutient, qui nous permet de vivre dans une autre dimension. Alors maintenant, cette expérience du transcendant, cette expérience de l'absolu, elle peut se faire de mille manières, hein. Donc je peux pas trop donner d'exemples. Certains peuvent le faire parce qu'ils sont émus d'assister à un office, à une liturgie, à un texte biblique, à une prière, mais d'autres peuvent être émus par une pensée brillante. Ils peuvent être bouleversés par la lecture d'un texte philosophique, ou par une œuvre d'art, ou même, et c'est mon cas, je peux éprouver une sorte de sentiment mystique devant une belle démonstration d'un théorème mathématique. Je dirais, quand je vois la démonstration par dichotomie et par l'absurde du théorème de Heine Borel-Lebesgue, je suis, mais c'est, quelle beauté, quelle rationalité, c'est merveilleux. Comme devant l'art de la fugue ou d'autres choses. Donc, l'expérience de l'absolu est quelque chose que l'on peut faire de tas de manières différentes. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez le faire, mais c'est important. Si on peut faire cette expérience, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Et de même, dans la relation au Christ, c'est bien qu'à un moment donné, on puisse, si on y arrive, à toucher quelque chose qui est de l'ordre, justement, de cet absolu, d'une émotion, d'une énergie. Et ça peut être dans une rencontre par la prière, si on sait prier, qu'on a appris à prier, ou ça peut être dans l'étude d'un texte, du texte biblique, à des gens qui sont plus intellectuels que priants. Et ça, on a tous les exemples, hein, dans nos textes de récits d'apparition. Certains sont dans la chambre haute et ils prient, et d'autres, les pèlerins d'Emmaüs, ils prient pas, ils sont pas au culte, ils marchent. Et ils discutent entre eux sur l'évangile, sur la Bible, et ils réfléchissent, et ils discutent, et Jésus apparaît là. Et tout à coup, dans cette discussion théologique, il y a quelque chose qui se passe, et ils se disent, mais en fait, on s'en rendait pas compte, mais Christ était présent dans cette discussion, et ça change notre vie. Alors, ensuite, autre constante dans ces récits, c'est que, je vous ai dit, c'est compliqué, c'est vrai, et aussi que c'est tellement compliqué que Jésus n'arrête pas d'apparaître et de disparaître. C'est-à-dire qu'il apparaît, aux disciples d'Emmaüs, il apparaît, ils le reconnaissent pas, ensuite ils le reconnaissent et il disparaît, il apparaît à Marie-Madeleine, mais ensuite il s'enlève et il dit à Marie-Madeleine, ne me retiens pas, c'est assez compliqué. Ça, c'est important de le savoir. C'est que l'expérience de la présence de Dieu, l'expérience du Christ ressuscité dans sa vie, l'expérience mystique en général, ou la foi d'une façon encore plus générale, n'est pas quelque chose de constant. Il y a toujours des hauts et des bas, et il y a des moments où on peut se sentir proche de Dieu, et des moments où alors on s'en fiche complètement. Il y a des hauts et des bas, et c'est parfois quand on croit l'avoir, et qu'on se dit, là je le touche, paf, ça disparaît, plus rien. Et donc les disciples ont vécu cela toute leur vie, hein. Ils étaient au départ dans l'enthousiasme de Jésus, c'est le Messie. Et puis bon, finalement, il meurt, désespoir, il dit en fait, on n'a plus rien. Et puis il ressuscite, formidable, et ils sont dans l'enthousiasme de la résurrection. Et puis ensuite, de nouveau, il leur est enlevé à l'ascension, et ils sont prostrés, ils s'enferment dans la chambre haute. Et là, il n'y a plus rien. Et puis ensuite, il y a la Pentecôte, où tout à coup, ils redécouvrent le Christ qui revient d'une façon autre, et il revient, découvre un autre mode de présence, on en parlera à la Pentecôte dans quelques jours, dans 50 jours moins 7, ça fait 43. Il découvre que la présence du Christ, elle se fait d'une façon spirituelle, par l'esprit, et non plus trop matérielle, et que c'est cette présence du Christ, c'est une présence comme le Saint-Esprit qu'il avait promis, le Saint-Esprit qui est le paraclet, c'est-à-dire le défenseur, le consolateur, un esprit, une source de vie. Et les disciples, à ce moment-là, à partir de la Pentecôte, c'est intéressant, cessent d'être ballottés par leur expérience spirituelle. Jésus est là, il est pas là, je prie pas, je sens Dieu, je sens pas Dieu, c'est plus le problème. Il y a une sorte de lissage par l'engagement, où tout à coup, ils se disent, bon, on va pas dépendre sans arrêt de sa, du niveau de mysticité de sa foi. Et à un moment donné, je décide que Jésus est présent dans ma vie d'une façon spirituelle, par une source de vie, qu'est le Saint-Esprit de Dieu qu'il nous donne et qu'il nous transmet. Et maintenant, ben, je me mets au boulot et j'agis. Bon, mais revenons quand même, soyons plus précis. Jésus, voilà les prérequis, les conditions générales, mais dans nos récits, Jésus apparaît dans quelles circonstances aux disciples? Et là, je vous ai dit au départ que j'ai été un peu désarçonné parce que ces textes n'ont à peu près rien de commun. Ils sont tous différents. Si on prend les récits de la vie de Jésus avant sa mort, avant sa résurrection plutôt, ils sont concordants. Les évangiles racontent, la parabole du semeur, on l'a dans les trois premiers évangiles, les béatitudes, on sait qu'il les a dit. Enfin, tout ce qu'a fait Jésus avant sa mort, on a des concordances assez objectives que chacun raconte à sa manière. À partir des apparitions, aucun évangile n'est d'accord. Les apparitions de Marc sont propres à Marc, celles de Luc sont propres à Luc et celles de Jean sont propres à Jean. Aucune sont toutes différentes. C'est assez étonnant. Alors, quand j'étais un jeune pasteur plutôt un peu provocateur et impie, je me disais que cette diversité des récits d'apparition du Christ ne voulait nous amener qu'à une seule conclusion, c'était que ces récits d'apparition n'étaient pas des récits historiques et objectifs, sinon les disciples auraient été marqués par un événement formidable, ils auraient tous raconté la même chose, mais que c'était des récits purement subjectifs et que c'était des façons imagées pour chacun de raconter leur propre expérience spirituelle. Bon. Alors est-ce que ces récits vraiment sont des récits, est-ce qu'il n'y avait pas de réalité concrète dans ces apparitions? J'en sais rien. Je crois que les auteurs ne sont pas des menteurs, ils ont dit ce qu'ils ont vraiment ressenti. Mais voilà, ce que ça m'enseigne pour moi, qui est important surtout, c'est que le Christ apparaît différemment à chaque personne. Et ce qu'il y a de commun entre tous ces récits d'apparition, c'est qu'ils n'ont rien de commun. Et donc, il n'y a pas d'expérience universelle du ressuscité. Ah. Et je crois que c'est vrai ça, c'est-à-dire qu'il y a une diversité totale des expériences spirituelles. Il n'y a pas deux personnes qui auront le même rapport au Christ ressuscité et de la même manière. Par rapport au Christ des évangiles, avant sa mort, c'est assez objectif. Jésus a enseigné, on peut se positionner par rapport à son enseignement. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu, je suis d'accord ou pas d'accord. Moi je suis chrétien, je dis qu'il a raison. Si vous trouvez qu'il a tort, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Voilà, c'est tout. Vous pouvez préférer la discorde, la haine et la violence à la paix, c'est votre choix. Mais quant au Christ ressuscité, c'est-à-dire quant à la foi, là c'est autre chose. La foi de chacun n'appartient qu'à chacun, il n'y a pas de modèle, et votre propre foi, votre rapport à ce que représente le Christ aujourd'hui, votre rapport à Dieu, ça ne dépend que de vous, de votre éducation, votre système mental, de votre nature, et personne ne peut juger de votre foi, ni la mépriser, ni la condamner, ni quoi que ce soit. Et du coup, j'ai toujours été très convaincu de ça, de cette diversité de l'expérience spirituelle. Et du coup, et je vous disais, le catéchisme est quelque chose de très compliqué quand on enseigne aux enfants comme nous le faisons aujourd'hui, là. C'est que si on confie le catéchisme à un seul catéchète, eh bien, ça ne va pas parce que on va mettre les enfants devant un discours à prendre ou à laisser. Quelqu'un va dire, voilà, pour moi, Christ ressuscité, c'est ça. Alors, on écoute, si ça parle, vous avez gagné, mais si l'autre dit, alors là, je comprends rien du tout, eh bien, vous l'avez perdu. Et en fait, je pense que, justement, il n'y a pas un seul mode de rapport au Christ, une seule relation à Dieu, à la foi et à la religion. Et on a de la chance, à l'Étoile, parce que nous arrivons, même dans nos catéchismes, à avoir plusieurs intervenants. Les premières années sont faites par quelqu'un, les deuxièmes par un autre, les troisièmes par un autre. Les moniteurs d'école biblique sont nombreux. Et moi-même, dans le catéchisme que je fais aux dernières années, je fais à chaque fois venir un témoin, quelqu'un d'extérieur qui n'est pas moi, pas pasteur, etc., et qui vient dire sa foi, et qui va le dire avec ses mots qui ne sont pas les miens, avec sa sensibilité qui n'est pas la mienne. Et je crois que ça augmente la chance aux jeunes de pouvoir trouver leur place. Et à l'étoile, même pour les grands, je dirais, on a aussi cette chance d'avoir deux pasteurs, plus des intervenants extérieurs qui viennent prêcher de temps en temps. Quand nous faisons des cycles bibliques, on les fait toujours à deux avec Florence, donc on n'est pas d'accord, on se dispute un peu, ou en tout cas on a des visions complémentaires. C'est extrêmement important et ça fait partie de notre conception fondamentale que il n'y a pas d'univocité de la relation à Dieu. Mais je dirais que même moi, en tant qu'adulte, il y a des livres de théologiens qui me passionnent et d'autres qui m'ennuient à un point que je ne peux pas en lire une page sans que ça me tombe des mains. Mais quelqu'un me dit, moi je suis passionné par Ellul, par exemple. Il y a des gens qui adorent lire Ellul. Moi j'y comprends, mais rien du tout. J'en lis une page, je m'endors. Et par contre, j'adore Tillich, mais des gens qui ne comprennent rien à Tillich. Les philosophes, je parlais avec un jeune hier, un jeune étudiant en philosophie, il me dit, moi, ce qui me passionne, c'est Hegel. Je dis, mais moi, Hegel, je ne comprends rien. Par contre, je lui dis, mais moi, ce que j'aime, c'est Heidegger. Je suis un fan d'Heidegger, je lis L'être et le temps, comme vous lisez le journal du matin au petit déjeuner, ça me stimule, ça me passionne, ça m'enthousiasme. Il me dit, mais L'être et le temps, j'y comprends rien. Ben, écoutez, moi, j'en sais rien, c'est comme ça. Et donc, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir la même foi, ni d'avoir la même théologie. On ne peut pas demander à tous les chrétiens d'être barthiens, ou d'être tillichiens, ou d'aimer, je vous disais, Ellul, ou d'aimer Maurice Zindel, ou d'aimer un autre. C'est chacun avec sa façon. Et donc, une diversité d'expériences religieuses, que je vois justement dans cette diversité des récits d'apparition du Christ, c'est pour moi un des fondements de la foi chrétienne, et d'admettre que le christianisme n'est pas dogmatique sur ce point, et que c'est à chacun de faire sa propre rencontre. Mais enfin, peut-être que cette diversité va même plus loin que ça, parce que le dernier point que m'inspire cette mosaïque de textes de résurrection, c'est que finalement Jésus apparaît différemment à chacun, selon la nature de chacun, et il apparaît là où sont les gens, comme ils sont. Il apparaît dans le deuil de Marie, de Marie-Madeleine, qui vient à la tombe enterrer ses espoirs déçus. Là, Jésus apparaît. Il apparaît à Pierre dans l'enthousiasme qu'il a d'entendre que le Christ est ressuscité. Il apparaît dans la démarche intellectuelle des pèlerins d'Emmaüs, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans leur recherche. Il apparaît dans ceux qui partagent le pain et le vin, parce qu'il y en a qui aiment la communion. Il apparaît dans la tristesse de ceux qui sont enfermés dans la chambre haute. Il apparaît dans le repas sympathique de ceux qui mangeaient des poissons et du miel et qui disent à Jésus, bah tiens, viens, tu partages avec nous, c'est cool. Il apparaît dans le travail difficile et pénible de Pierre, dans la pêche miraculeuse. Il n'y arrive pas, il galère, il pêche toute la nuit, il a rien. Et Jésus apparaît et change sa vie. Je ne sais pas, le Christ ressuscité, c'est une chance qui peut venir vous rencontrer dans votre vie, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit triste, qu'elle soit dans la réussite ou dans l'échec, qu'elle soit dans la foi ou dans la non-foi. Le Christ apparaît chez les gens là où ils sont, dans leurs loisirs, dans leur travail, dans leur vie familiale, dans tout. Et du coup, on avait... À un moment donné, dit « la devise de l'étoile, c'est un peu « venez comme vous êtes ». C'est pas mal, mais pour moi, la devise de notre jour aujourd'hui, ce serait plutôt de dire « là où vous êtes, le Christ peut venir vous rejoindre ». C'est pas pareil, c'est « là où vous êtes, le Christ peut venir vous rejoindre dans ce que vous êtes, ce que vous expérimentez, dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre loisir, dans votre travail, dans vos joies, dans vos souffrances, dans vos craintes, dans tout ce que vous êtes ». Dans votre mystique peut-être, dans votre prière si vous savez prier, dans votre rationalisme même, ou peut-être dans votre goût de la science, dans votre étude des textes. Comme vous êtes, là, il y a une possibilité du Christ de venir être présent et que vous pouvez expérimenter quelque chose qui est de l'ordre de l'extraordinaire et qui dit, il y a une source de quelque chose qui vraiment m'ouvre un horizon, qui me débloque une barrière, un mur qui était devant moi, qui semblait fermé, quelque chose qui m'élève au-dessus de mon quotidien, qui n'est pas évident, qui m'enthousiasme par rapport à un futur qui me semblait déprimant. Il y a quelque chose qui peut à ce moment-là venir. Et donc là où vous êtes, vous pouvez accueillir le Christ ressuscité qui vient à chaque fois avec vous les mains ouvertes. Ce Christ ressuscité qui vient, je vous disais, dans tout ce que vous êtes, là où vous êtes, et il peut vous apparaître, et il peut vous rejoindre. Alors peut-être que vous ne le reconnaîtrez pas tout de suite en tout cas, comme les disciples ne le reconnaissent pas, mais il est là en tout cas, et il chemine avec vous, et ça je le crois. Et la bonne nouvelle de Pâques, que je garderai, c'est ça. De toute façon, le Christ ressuscité chemine avec vous. De toute façon, il est là avec vous dans votre travail, comme il était avec Pierre qui galérait avec ses poissons. Il est là avec vous dans votre enfermement dans la chambre haute. Il est là avec vous dans vos rites, dans vos prières, dans vos tristesses, dans tout ce que vous faites. Et peut-être que vous allez le voir ou l'entrevoir d'une façon subreptice. Peut-être qu'il va apparaître, vous allez dire, ça y est, je saisis quelque chose, pof, ça va disparaître aussi vite. Ne vous en faites pas, mais il est là. Et il vous a promis de donner son esprit. Alors n'attendez pas la Pentecôte pour le recevoir. Dès aujourd'hui, Jésus vient à vous dans la chambre haute où vous pouvez peut-être vous trouver enfermé ou que vous soyez, ou sur la plage, comme dans Jean, où il partage un barbecue avec ses disciples. Là, Jésus vient à vous et quel que soit l'enfermement dans lequel vous êtes, joyeux ou triste, il souffle sur vous et il vous dit « Recevez mon esprit, un esprit de joie, de paix, de consolation, un esprit de vie et je fais de vous mes témoins. » Amen.